Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. On est ensemble jusqu'à 15h30 pour Confidentiel, l'émission qui révèle les zones d'ombre qui se cachent derrière les grands destins. Le destin de cet homme-là est unique. Bob Marley est décédé il y a un peu plus de 40 ans et après avoir vendu 77 millions d'albums, sa voix continue de résonner. L'histoire de Bob Marley, c'est bien plus que celle d'un Jamaïcain qui a permis à la musique reggae d'être mondialement connue, et c'est déjà pas mal. C'est surtout l'histoire d'un homme envoyé de Dieu, Jah pour les Rastafari, qui a eu à cœur de délivrer un message d'amour et de paix à travers la planète chaque jour de sa vie. Et pour cela, il a même failli être assassiné. Que se cache-t-il vraiment derrière la légende Bob Marley? Un père qu'il n'a jamais connu? Une vie en tribu? L'amour, les femmes, l'argent, la gloire et la marijuana? Confidentiel lève le voile sur un mythe pas comme les autres. Et juste après, j'aurai l'honneur de recevoir Ziggy Marley, fils de Bob Marley et producteur du biopic qui sort sur la star jamaïcaine dans quelques jours. On est le soir du 3 décembre 1976 à Kingston, en Jamaïque. Dans les hauteurs de la ville, dans l'ancien quartier colonial des Britanniques, à deux pas de la maison du Premier ministre, c'est là que vit Bob Marley. Le chanteur de reggae a 31 ans, c'est une star dans son pays et ailleurs, même si pour les Jamaïcains, il est bien plus que ça. Marley, c'est un véritable prophète, un élu par lequel Jah leur parle. Jah, c'est le dieu des Rastafari. Quand il est sur scène ou en studio avec son groupe, les Wailers, au-delà des chansons, c'est en fait un message qu'il délivre à chaque fois, un message de paix et d'union. En cette année 76, Bob Marley est d'autant plus devenu un symbole que la Jamaïque traverse une crise politique sans précédent. Le pays, qui a obtenu son indépendance de la couronne britannique depuis 14 ans, est alors divisé en deux camps. Celui du parti de gauche, du Premier ministre Michael Manley, et celui de son opposant ultra-conservateur, Edward Saiga. L'affrontement entre leurs partisans respectifs prend des airs de guerre civile. Les violences éclatent un peu partout et les règlements de compte se jouent maintenant à balles réelles. Le pays, vous l'avez compris, vit sous tension. Pour tenter d'apaiser les esprits et réunir les Jamaïcains, Bob Marley, qui tient à rester neutre, doit organiser un concert baptisé Smile Jamaica, deux jours plus tard, avec la bénédiction du gouvernement. Sauf qu'à la surprise générale, le Premier ministre vient d'annoncer des élections anticipées. Ce qui fait que le concert qui devait réunir les Jamaïcains prend des airs de manifestation politique en soutien au pouvoir en place. Bob Marley est mal à l'aise avec ça, il se sent piégé. De partout, on lui met la pression pour qu'il annule ce show. Mais lui pense avant tout à son peuple, à tous ces gens avec qui il a grandi à la campagne ou dans le bidonville de Trenchtown, et à qui il a promis de jouer gratuitement. C'est envers eux qu'il a un devoir, alors il tient bon. Voilà, ce soir du 3 décembre 76, en vue du concert qui approche et qu'ils ont décidé de maintenir, Bob et les Wailers répètent chez Bob, au 56 Hope Street, dans cette grande maison coloniale où le chanteur vit en communauté, entouré de ses amis, de musiciens et de rastas. Ses compagnes sont dans les parages également, Judy, qui est enceinte de 8 mois, et Cindy, qui vient tout juste d'être élue Miss Monde. Rita Marley, la seule femme que Bob a épousée, est là, elle aussi. Elle vit ailleurs avec ses enfants, mais comme tous les jours, elle est venue pour les répétitions. Elle est l'une des choristes des Wailers. Elle et Bob se connaissent depuis qu'ils sont ados. Avec le temps, Rita est devenue bien plus qu'une épouse. C'est elle qui l'a initiée au rastafarisme et elle se voit désormais comme la gardienne du temple, la gardienne de son œuvre et de son héritage spirituel. Leur fils, Ziggy, dira plus tard qu'il n'y aurait jamais eu de Bob Marley sans Rita. Et en attendant que le patron vienne répéter, le groupe fait tourner I Shot the Sheriff. Bob est dans la cuisine avec son manager, Dan Taylor. Il parle business. Marley est assis sur le bord de l'évier. Taylor mange un pamplemousse à table. Quand soudain, des détonations se font entendre. Il pense tout de suite que ce sont des pétards lancés par les gamins qui sont dehors, mais non. En levant la tête, ce sont bien deux revolvers qu'il voit. L'un surgit à travers la porte, l'autre à travers la fenêtre du jardin. Plusieurs coups sont tirés. Dan Taylor prend 5 balles dans l'abdomen et tombe à terre. Bob, lui, est touché à la poitrine et au bras. Oui, on vient de tenter d'assassiner Bob Marley. Les coups de feu ont provoqué la panique dans la salle de répétition. Beaucoup se sont réfugiés dans la salle de bain. Rita, elle, se trouve devant la maison, dans la cour qui donne sur la rue. Elle tombe alors nez à nez avec les tireurs qui prennent la fuite. Un dernier coup de feu retentit. Rita Marley vient de prendre une balle dans la tête. Ce soir du 3 décembre sera celui d'un drame manqué et même d'un miracle. Et oui, en voulant tuer Bob Marley et ses proches, les tireurs auront finalement donné naissance à une légende. Il n'y aura aucun mort. Rita, Dan et Bob, tous s'en tireront sains et saufs. Le chanteur de reggae en sort en quelque sorte ressuscité en Dieu vivant. Jah en a voulu ainsi. Le destin de Bob Marley est trop important pour qu'on le rappelle déjà. Il doit continuer à transmettre son message. Et 2 jours plus tard, le 5 décembre, malgré les menaces qui pèsent toujours sur sa vie, Bob Marley et les Wailers sont sur scène. Rita est là, elle aussi. Pour l'histoire, ses dreadlocks lui auront sauvé la vie car elles ont empêché la balle de toucher son cerveau. Marley dévoile au public son corps mutilé, la trace que la balle lui a laissée sur le cœur avant d'aller se loger dans son bras gauche. La foule est en transe le soir de ce concert. 80 000 personnes sont venues acclamer leur messie. La star ne devait jouer qu'un seul titre. Il restera finalement sur scène 1h30. Bob Marley est désormais le prophète de la cause Rasta et il est sur le point de diffuser sa bonne parole au monde entier. Le futur prophète de la cause Rasta voit le jour dans un véritable jardin d'Éden. Robert Nesta Marley naît à Sainte-Anne, un petit village perché sur les hauteurs au nord de la Jamaïque, au milieu des collines verdoyantes et de la végétation luxuriante. C'est vers cette terre fertile, propice à la culture de la pomme de terre, de la banane et du cacao, que des anciens esclaves ont trouvé refuge un siècle auparavant. Leurs descendants vivent là, dans des maisons de fortune faites de tôle, au milieu des champs. Pas d'électricité là-haut, les soirées se passent à la simple lumière de la lune, à chanter et à faire de la musique avec ce qu'on a sous la main. C'est justement dans les champs que Cédella, la mère de Bob, a croisé un cavalier britannique avec sa tenue beige et son chapeau colonial. Elle a tout juste 16 ans, lui, il a la soixantaine. Ici, tout le monde le connaît sous le nom de Captain Marley. La Jamaïque n'est pas encore indépendante et c'est lui qui supervise sur l'île pour l'Angleterre les plantations de cacao et de canne à sucre. Il prendra certes son nom, mais Bob grandira loin de ce père étranger et à la peau blanche. Toute son enfance, Bob, que tout le monde appelle Nesta, vivra avec ce statut peu enviable de métis, rejeté par les Blancs comme par les Noirs. Nesta est méprisé pour ce qu'il représente. Ce métissage sera d'abord une tare. Enfant, on lui confie les travaux des champs les plus ingrats. À l'école, on l'insulte. Mais Bob, le timide, révèle rapidement une force de caractère. Un rebelle qui gagne peu à peu le respect de ses camarades sur les terrains de foot et au détour des rues, là même où l'on reprend la musique venue d'Amérique à travers la radio. Nesta a une dizaine d'années quand sa mère, Cédella, décide de partir vivre à Kingston, dans le quartier pauvre de Trenchtown. C'est ici, au milieu des maisonnettes de tôle et de bois, qu'il va faire ses premières armes de musicien. Et qu'il va apprendre aussi à rendre les coups. Car à l'époque, un gang local fait la loi à Trenchtown. Les Rhodes Boys. À leur côté, le jeune garçon chétif va gagner un surnom. Taf Gang, ça veut dire le dur à cuire. Ça deviendra d'ailleurs un jour le nom de son label. C'est aussi dans cet environnement à Trenchtown que le futur prophète de la cause Rasta va faire la connaissance de ses disciples. Des musiciens en devenir comme lui, qui pour le moment sont plutôt promis à faire bouillir la marmite. Bob quitte en effet l'école à l'âge de 14 ans pour devenir soudeur. Pendant son apprentissage, il se lie d'amitié avec un collègue, lui aussi musicien à ses heures perdues, un certain Desmond Decker. Avec lui, il partage le goût pour le mento, la musique traditionnelle de la Jamaïque, et sa guitare à contretemps, mais aussi pour le ska qui est en train de naître. Cette rencontre avec Desmond Decker, ce sera déterminant pour Bob. Un soir, il rentre chez sa mère avec un éclat de métal dans l'œil. Il a mal, mais surtout, il en est convaincu, ce métier de soudeur n'est vraiment pas fait pour lui. Il serait bien meilleur à composer des chansons. Les semaines suivantes seront donc dédiées à la musique. On est en 62, la Jamaïque vient tout juste d'obtenir son indépendance, quand l'adolescent réussit, grâce à Desmond Decker, à sortir un premier single, Judge Not. Et ça connaît son petit succès. Ce n'est pas encore suffisant pour le faire vivre, il ne touchera que 20 dollars pour le titre. Mais c'est assez pour faire connaître son nom hors des murs de Trenchtown. Terminé Nesta, place à Bob, Bob Marley. Il a tout juste 16 ans, et la musique, il le sait déjà, c'est son destin. Et ce destin, le jeune Marley ne mesure pas encore l'ampleur qu'il va prendre. On est en février 1964, à Kingston. Fort de son premier enregistrement, Bob Marley et son pote d'enfance, Bunny, se mettent à la recherche d'autres musiciens avec lesquels former un groupe. Un jour, un grand type débarque, il s'appelle Peter, et il se dit guitariste. Guitariste ? Ok. Vas-y, joue-nous un truc. On lui passe une guitare, et là... Dès les premières notes, Bob et Bunny sont scotchés. Le dénommé Peter Tosh vient compléter le trio qui deviendra la formation historique des Wailers. Les trois musiciens se placent sous l'aile d'un artiste plus expérimenté, Joe Higgs, avec qui ils vont travailler leur style encore et encore. La nuit, Joe les fait même chanter dans les cimetières pour affronter l'esprit des morts. Car à cette époque, la vie spirituelle de Bob Marley aussi va de l'avant. Il fréquente une communauté Rasta, fondée pas très loin de Trenchtown, et il va bientôt se convertir à leur doctrine. Petit rappel. La religion Rastafari est née dans les années 1930 en Jamaïque, au moment même où en Afrique, en Éthiopie précisément, l'empereur Haïlé Sélassié Ier montait sur le trône. Pour les Rasta, Sélassié est un élu de Dieu. Ils le considèrent comme leur messie. Et le continent africain étant le berceau du peuple noir, pour tous les Rastafari réduits à l'exode et à l'esclavage, dans leur croyance, retourner en Afrique, c'est retourner vers leur terre promise. Leurs valeurs et leur mode de vie sont inspirés de l'Ancien Testament, plutôt en marge de ce que l'on vit en Occident. Régime alimentaire strict, ni sel, ni alcool. Ils ne doivent pas se couper les cheveux, d'où les fameuses dreadlocks. La consommation de marijuana, la ganja comme ils l'appellent, est encouragée car elle favorise la méditation. À leurs yeux, toute autorité autre que celle de Jah, leur dieu, est à bannir. Police, gouvernement, église, relèvent tous de Babylone, la décadente. Et d'après la lecture de la Bible que font les Rasta, Haïlé Sélassié est donc bien le Messie noir qu'ils attendaient. Quand il se rendra en Jamaïque 2 ans plus tard, en 1966, 100 000 personnes l'attendront à l'aéroport. Rita, une jeune femme de Trenchtown, dont Bob est tombé amoureux, lui dira qu'elle a croisé le regard de l'empereur éthiopien dans les rues de Kingston et qu'elle a eu une révélation. Ce petit homme d'1m60 dans son costume militaire était bien l'incarnation de Dieu sur Terre. Tous les ingrédients sont réunis pour nourrir l'esprit et les mots de Bob Marley. Le cœur même de sa musique est d'ailleurs sur le point de battre pour la première fois. Un rythme que les jeunes Wailers trouveront presque par hasard au cours d'une répétition. Une pédale d'effet mal réglée renvoie un jour en écho le riff de la guitare. une rythmique que Bob et ses acolytes vont s'empresser d'adopter. Le son du reggae est sur le point de voir le jour, même si pour leur premier tube, Simmer Down, qui sort en ce début 64, le futur prophète et ses disciples donnent encore dans le ska pour faire danser les foules. Direction Londres, on est en 1972. Depuis la fin des années 60, Bob Marley et les Wailers ont encore affiné leur son en travaillant notamment avec l'extravagant et génial Lee Scratch Perry. Mais leur renommée est encore confinée à la Jamaïque et aux Caraïbes. Bob Marley, qui a lui aussi fini par se laisser pousser ses dreadlocks, a épousé Rita. Ils ont trois enfants, Cédella, née en 67, Ziggy, qui arrive en 68, et Stephen, en cette année 72. Les Wailers sont en train de terminer une tournée en Angleterre. Mais voilà, ça se passe mal avec les organisateurs qui les ont plantés là, sans un sou en poche. Bob, Benny, Peter et les autres se retrouvent bloqués dans l'hiver londonien, sur la paille, et sans personne vers qui se tourner. Le moral est au plus bas, c'est clair. C'est alors qu'un nom arrive aux oreilles de Bob, un certain Chris Blackwell. Ce nom, il le connaît, car 10 ans plus tôt, c'est lui qui avait distribué son premier single, souvenez-vous, Judge Not, en Angleterre. Contact est pris avec ce Chris et un rendez-vous est organisé. Les deux hommes ne se connaissent pas, mais il fallait qu'ils se rencontrent. Depuis 1959, Chris Blackwell est à la tête d'un label, Island Records, qui a été le premier à diffuser du ska en Europe. Entre-temps, sa renommée s'est plutôt faite grâce au rock. Mais la Jamaïque, le trentenaire la connaît bien. C'est même là qu'il a grandi, au 56 Hope Street, une adresse qu'on a déjà évoquée dans les beaux quartiers de Kingston. Vous me voyez venir ? C'est donc un fin connaisseur de la musique de l'île et il veut contribuer à la faire découvrir à l'étranger. Mais Chris Blackwell est avant tout un businessman. Et il est à la recherche d'une nouvelle figure, d'un nouveau style, pour combler le vide laissé par la mort de Jimi Hendrix et de Jim Morrison. Alors quand le fauché, l'affamé Bob Marley apparaît en face de lui en ce jour de l'hiver 72, il est comme frappé par la foudre. Le jour où Bob Marley est entré dans mon bureau, dira Blackwell, j'ai eu comme une vision. Il connaît déjà sa musique, mais ce qui le sidère, maintenant que le jeune musicien se trouve là, devant lui, c'est son charisme, son sourire, son état d'esprit rebelle et à la fois peace and love. Il correspond exactement à ce que la jeunesse occidentale recherche. Un troupeau laissé là sans berger, sans guide spirituel. Chris Blackwell voit tout de suite le potentiel énorme de Bob et de sa musique. Il est le premier à pressentir ce que ce jeune garçon métis, aux dreadlocks et au charme fou, peut devenir. L'un des artistes les plus importants du XXe siècle, peut-être même plus. Alors le producteur suit son instinct. Il prend un risque et donne tout de suite à Marley et ses amis, sans même signer le moindre contrat, une avance de 8000 livres sterling. Ça fait à peu près 10 000 euros. Une somme très importante à l'époque. Les Wailers peuvent enfin rentrer chez eux. Bob Marley, lui, se remet au travail, car oui, le prophète du reggae a rendez-vous avec son destin. L'arrivée de Chris Blackwell va avoir plusieurs conséquences pour les Wailers de Bob Marley. Musical, déjà, les Jamaïcains assument enfin à plein leur son reggae, avec les albums Catch a Fire et Burn In, sortis en 73, puis avec Natty Dread. En 1974, un certain Eric Clapton va même reprendre l'un des titres du groupe et contribuer à faire connaître la musique de Marley à un public bien plus large. Chris Blackwell veut surfer sur cette vague de reconnaissance. Il organise une tournée de promotion aux États-Unis, une tournée qui fait grincer des dents chez les Wailers. Car qui dit promotion, dit peu, voire pas de cachet. C'est à ce moment-là que Benny, l'ami d'enfance de Marley et le cofondateur des Wailers, claque la porte, suivi peu de temps après par Peter Tosh. Ces deux figures historiques ont une dent contre Blackwell, qui n'a Dieu que pour Marley. Il lui reproche de créer des tensions au sein du groupe. Alors après ce divorce, les Wailers font entrer des petits nouveaux dans leur formation. Joe Higgs, le mentor des débuts, souvenez-vous, les rejoint, ainsi que Rita, en tant que choriste, elle ne faisait pour l'instant pas partie de l'aventure. La révolution reggae est en marche. Et des millions de jeunes occidentaux vont bientôt se convertir à la musique jamaïcaine. En 1975, les Wailers sont de retour à Londres, en été cette fois, pour un concert qui va devenir légendaire. Ce soir de juillet, au Lyceum Theatre, la jeunesse anglaise est aussi nombreuse dans la salle que sur le trottoir. Tout le monde est venu dans l'espoir de pouvoir rentrer, tant les fans de rock que la communauté noire de la banlieue londonienne. C'est l'heure de la transfiguration pour Bob Marley. Devant cette foule en délire, qui connaît ses chansons par cœur et qui danse sur ses rythmes lancinants, quelque chose se passe. Le simple chanteur de reggae est en train d'entrer dans une nouvelle dimension, celle de la star planétaire, de l'icône vivante. Bob Marley a du succès, de l'argent, et fait ce qu'il sait faire le mieux, rassembler les Noirs comme les Blancs. Lui qui a à la fois du sang anglais et jamaïcain qui coule dans ses veines, mais surtout, le chanteur des Wailers est devenu un véritable prophète en son pays. Il a même racheté à Chris Blackwell la maison familiale qu'il lui avait prêtée. Les riverains de ce quartier très chic, longtemps interdit aux Rasta et réservé aux élites, voient ainsi débarquer une ribambelle de gamins et toute une communauté de dreadlocks. Et le soir, la musique et les volutes de ganja viennent enivrer ce quartier longtemps resté trop sage. C'est le ghetto qui débarque chez les riches, plaisante Bob Marley, qui abolit à lui tout seul les différences sociales et raciales de son pays. D'un côté, il côtoie le Premier ministre, roule dans une BMW flambant neuve. D'un autre, il distribue son argent aux plus démunis et à tous ceux qui lui en demandent. Bob Marley est devenu incontournable en Jamaïque, un symbole si fort que les politiques se battent pour obtenir son soutien, évidemment. Jusqu'à ce jour de décembre 76, où on va lui tirer dessus, on le racontait au début de ce confidentiel. Le jour de cette tentative d'assassinat, quelque chose se brise définitivement. Bob ne comprendra jamais pourquoi on a cherché à le tuer. Rita écrira dans son autobiographie « Cette attaque m'a changé, comme elle a changé Bob. » Même si pendant le concert Smile Jamaica, il a relevé sa manche et montré ses blessures au public comme par défi, après ça, il s'est installé dans la peur. Même son de cloche de la part de Cindy Breakspear, Miss Monde 1976, et compagne de Bob à l'époque. Il était profondément blessé qu'on ait pu lui vouloir du mal. Lui qui avait toujours souhaité le meilleur pour le peuple jamaïcain. Quelques semaines après cette tentative d'assassinat, Bob Marley décide donc de partir, et loin. Le prophète vient de choisir l'exil. Un exil personnel qui va bientôt lui-même faire écho à l'un des mythes fondateurs des Rasta, celui de l'Exode. Écoutez cette chanson, on en parle tout de suite. Exodus. En 1977, dans le quartier de Chelsea, à Londres. C'est ici que Bob Marley, quelques membres des Wailers et Cindy, sa petite amie, ont posé leurs valises. Dans cette grande demeure du 42 Oakley Street, la vie de la petite communauté jamaïcaine ressemblerait presque à celle de Kingston. Chaque matin, c'est footing et partie de foot de l'autre côté de la Tamise, au Battersea Park. Répétition l'après-midi, le soir, on lit la Bible avec les copains Rasta du coin, le tout évidemment dans une ambiance un peu enfumée. Et au petit matin, Bob Marley, qui dort peu, se plonge corps et âme dans sa musique. la routine s'installe rapidement chez les Whalers. Le chanteur est un peu nostalgique de son île, mais il reste traumatisé par les événements de Kingston. Pourquoi a-t-on voulu le tuer ? Même ici à Londres, il a peur pour sa vie et il se fait le plus discret possible quand il sort. Au point qu'un soir, il est arrêté lors d'un simple contrôle routier pour un joint découvert dans sa poche. Sa condamnation pour détention de marijuana fait la une des tabloïdes et révèle surtout au grand jour sa présence dans la capitale britannique. La presse s'intéresse alors à cet étrange prophète jamaïcain qui vit le grand amour avec la plus belle femme du monde. Je rappelle que Cindy Breakspear vient de remporter le titre de Miss Monde. Bob déroge de temps à autre au code de conduite Rasta en tombant dans des mondanités toutes babyloniennes. Restaurant chic, smoking et champagne. Et quand Cindy est en voyage, Bob continue de multiplier les conquêtes féminines. Il dira « Les femmes, ce sont les mères de la création. Je me sens le droit de les avoir toutes de temps en temps. » Des mères de la création, comme il dit, que Bob aura largement mis à profit. Je précise, en plus des 3 enfants conçus avec Rita, il aura Damian avec Cindy, Robert et Rohan avec des filles de Trenchtown, mais aussi Julian avec une groupie ou encore Makeda avec une secrétaire de son studio de Kingston. Donc au total, pas moins de 11 enfants porteront officiellement le nom de Marley, même si une 15aine revendiqueront sa paternité. Rita, elle aussi, aura des enfants de son côté. Bob se montrera en revanche très jaloux et parfois même violent quand Madame Marley, qui est toujours sa femme sur le papier, aura d'autres aventures. Mais cet exil londonien et toutes ses rencontres ne le détournent pas pour autant de sa mission première, sa grande mission qui reste artistique et spirituelle. Car c'est à Londres que se construira l'un de ses chefs-d'œuvre et son plus grand succès jusque-là, l'album Exodus. Le nom s'est imposé de lui-même. Un jour, Family Man, le bassiste des Whalers, revient à Oakley Street avec un film sous le bras, Exodus, d'Otto Preminger. Le long métrage raconte un épisode de la naissance d'Israël, celle d'un navire, l'Exodus, qui conduit des rescapés de la Shoah vers la terre promise des Juifs. Le film et sa musique épique prennent Bob Marley et ses camarades aux tripes. Le rastafarisme promet lui aussi le retour en terre promise des descendants d'esclaves. Les Whalers se reconnaissent dans cette histoire d'exode. Eux qui se sentent perdus quelque part entre leur Jamaïque natale et l'Afrique des origines, y voient la matière à un grand disque, à la fois mystique et spirituel. À sa sortie, en juin 1977, Exodus est un carton en Europe. Chris Blackwell organise une grande tournée américaine. Les États-Unis, le Graal du marché de la musique, n'attendent plus que lui et les Whalers. Sauf qu'un pépin de santé de Bob Marley, de prime abord complètement insignifiant, contraint finalement les Whalers à annuler leur départ pour l'Amérique. Au cours d'une de ses traditionnelles parties de foot, Bob adorait ça, le chanteur de 32 ans a pris un coup de crampon au gros orteil. Bob Marley a laissé traîner, il a continué à jouer, la plaie s'est infectée et elle n'a pas l'air de guérir. Après plusieurs semaines, le diagnostic tombe. Marley a un mélanome, un cancer de la peau. Bob est stupéfait et sous le choc. Il se souvient alors de ce père blanc, quasi étranger. Cette maladie, elle n'existe pas au sein de la communauté noire. Alors elle lui vient forcément de cette moitié blanche qu'il a à l'intérieur de lui. Le seul héritage que son géniteur lui aura jamais laissé, un combat avec la mort. Car le prophète jamaïcain est déjà en train de vivre ses dernières années. On est fin 78, le temps presse pour le prophète du reggae et ses disciples. Après l'annonce de la maladie, Bob Marley ne se ménage pas. Il décide de repartir en tournée avec les Whalers. Il a encore un message à faire passer. Ja veille sur lui de toute façon. Après l'Europe, il veut désormais évangéliser l'Afrique, l'Éden des Rastas. Et évidemment l'Éthiopie de Selassie, souvenez-vous. Car Bob Marley, le prophète du reggae, a beau remplir les stades européens, il a l'impression de ne pas atteindre ses frères noirs suffisamment. En novembre 78, il se rend donc à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, avant d'entreprendre le pèlerinage de Sachamein, la Mecque des Rastafari. C'est ici qu'en 1941, l'empereur Haïlé Sélassié avait offert 200 hectares de terre aux réfugiés noirs. Une terre promise pour ceux qui fuyaient la ségrégation raciale aux États-Unis ou pour les Rastafari venus accomplir leur rapatriement, leur retour de Jamaïque. Bob Marley passera plusieurs jours seul, ici, avec les colons. Avec eux, il s'intéresse à la situation d'un autre pays d'Afrique, la Rhodésie, où une violente guerre d'indépendance fait rage. C'est là qu'il composera un morceau qui fera date dans l'histoire du continent africain, en devenant 2 ans plus tard l'hymne même de ce nouveau pays, le Zimbabwe. Le 17 avril 1980, Bob Marley et les Wailers font le voyage vers le Zimbabwe. Le prophète Rasta a 35 ans, mais il en fait facilement 10 de plus. Il est rongé par la maladie. Son cancer s'est propagé partout, cerveau, poumons, colonne vertébrale, tout est touché. Peu de temps avant, à New York, il a fait un malaise à Central Park pendant un footing avec les Wailers, à qui d'ailleurs, on ne peut plus vraiment cacher la situation. Les médecins n'ont plus d'espoir. Mais Bob, qui se fie plus à Jah qu'à la science, veut continuer d'y croire. Et continuer de se produire sur scène. Maintenant qu'il est devenu cette icône mondiale, Bob Marley entend consacrer le peu de temps qu'il lui reste à chanter. C'est ce que Jah a choisi pour lui. Alors il veut accomplir sa mission. Rastaman vibration, yeah, I'm positive. Live if you wanna live, I and I vibration, yeah, I'm positive. Le 17 avril, jour de l'indépendance du Zimbabwe, il est donc là, devant une foule en délire venue acclamer cette star du reggae qui leur a donné la force de se libérer de l'emprise britannique. Mais rapidement, des incidents éclatent à l'extérieur du stade où se tient le concert. On tente de forcer la sécurité, la clameur gronde. Les gens viennent de tout le pays, mais aussi d'Afrique du Sud, de Zambie, du Congo, pour apercevoir le prophète Rasta, le souvenir d'une vie. Et bientôt, les policiers sont débordés. Des centaines de personnes investissent l'enceinte et voilà qu'on lance des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. C'est le chaos le plus complet. Des femmes et des enfants sont piétinés. Rita et les choristes quittent la scène, suivis peu à peu par des musiciens suffocants et en larmes. Bob Marley, lui, n'a pas bougé. Malgré la cohue, il se tient là, sur scène. Seul, en transe, il ne veut pas abandonner son public. Les Wailers reviendront finalement sur scène pour reprendre le concert et chanter le très attendu morceau Zimbabwe. Le prophète jamaïcain ne vient pas seulement de rentrer dans la légende de la musique. Il vient de faire une entrée fracassante au panthéon de l'Afrique. Bob Marley est enfin rentré chez lui. Could you be loved? On est au printemps 1980. On n'est plus au Zimbabwe, ni au 56 Hope Street de Kingston, ni au 42 Oakley Street de Londres. Non. On est en Allemagne, dans un petit village de Bavière, près d'un lac, au milieu des montagnes enneigées. C'est là que vit Bob Marley depuis 8 mois. Un soigneur controversé y a ouvert une clinique, celle de la dernière chance pour Bob. Il va tout de même réussir à déjouer les pronostics des médecins qui ne donnaient plus que quelques semaines à vivre au prophète Rasta. À Rotterdam, en Allemagne, la star du reggae s'est certes acheté quelques mois de sursis, mais Marley n'a pas pu déjouer son destin de prophète rappelé auprès de lui par Jah, après avoir si longtemps prêché la bonne parole. Avec le traitement, Bob a perdu du poids et ses dreadlocks. Ses fidèles sont là autour de lui pour l'accompagner dans ce dernier combat. un dernier combat qui atteint son ultime round le 8 mai. C'est à ce moment que Bob Marley s'envole pour Miami où vit sa mère. Ce sera son dernier voyage. Le grand prophète jamaïcain, le chantre du reggae, l'icône rasta, le libérateur de ses frères africains, s'éteint le 11 mai 1981 auprès des siens. Rita est là. Elle a emmené avec elle tous les enfants de Bob, les siens, mais aussi ceux des autres. En Jamaïque, la nouvelle fait l'effet d'un tremblement de terre. La mort de Bob Marley est pleurée dans tout le pays et dans une grande ferveur religieuse. Sur la route qui ramène sa dépouille à Sainte-Anne, cet Éden qui l'aura vu naître au milieu des collines 36 ans plus tôt, les hommes s'écroulent, les femmes crient leur douleur. Un mausolée a été construit à la va-vite au milieu du petit village de Tôle. Plus de 100 000 personnes l'entourent en espérant toucher son cercueil une dernière fois. L'hommage d'un pays à son roi prophète, à un messie qui aura porté dans le monde entier le message des Rastas, celui de la liberté retrouvée d'un peuple et de sa rédemption.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.
Confidentiel.
RTL.
Ophélie Meunier.
Comment cette aventure a commencé?
Il y a 5 ans, je pense qu'il y a quelque chose m'a fait penser à contacter en fait un studio, explorer, étudier l'idée de faire un film sur la vie de mon père et du message de sa vie. Et je me disais qu'il y avait quelque chose, on ne peut pas l'expliquer vraiment, ce qui portait cet élan, mais voilà.
Quelque chose que vous avez ressenti à l'intérieur de vous, un peu comme une mission de transmettre cet héritage?
Ouais. En tout cas, c'est tout à fait quelque chose de spirituel. Nous sommes un peuple spirituel et on est parfois animé par des choses qu'on ne comprend pas exactement. C'est vraiment le spirituel.
J'imagine que c'est pas facile de confier les traits de son père à quelqu'un, à un acteur. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu le film joué par Kingsley?
I was on set. Effectivement, moi j'étais sur les plateaux, sur le tournage, pendant tout le processus. Nous, on a, avec Neville Garrick, on a beaucoup aimé Kingsley, Neville étant un bon ami à moi. Et donc, lui avait là cette liberté artistique pour explorer. Kingsley avait cette liberté artistique pour explorer ce qu'on souhaitait explorer dans le film. Et moi, je suis ravi d'avoir choisi Kingsley. Et puis, lorsqu'on a vu le film terminé dans sa version finale, on a eu le sentiment que ça représentait bien Bob, non pas le Bob Marley qu'on voit à l'extérieur. Et il y a certains éléments qui entrent à cela, mais il y a d'autres éléments. On comprend l'aspect émotionnel.
Vous n'aviez pas nécessairement envie finalement que Kingsley singe un peu votre père. Vous vouliez qu'il se l'approprie aussi, j'imagine. Qu'il fasse un peu quelque chose à lui. C'était important ça pour vous?
C'est quelque chose d'artistique, absolument. C'est un travail artistique. Il faut permettre à l'artiste de s'exprimer, d'avoir cette liberté de s'exprimer dans son, à travers son art. On ne voulait pas trop contrôler Kingsley dans son jeu d'acteur et lui donner la liberté d'exprimer son art. Et on était tout à fait ravis.
Alors dans le film, il y a ces parties de foot incroyables qu'on voit, que vous jouez avec votre père quand vous étiez enfant. J'aimerais savoir le souvenir que vous en gardez, gamin, de ces moments-là très, très, très joyeux et très familiaux et de partage.
Alors, les souvenirs que j'en ai, bien, sont marqués par beaucoup de joie, une grande joie, mais également ce souvenir de, eh bien, d'être là et de voir des discussions avec, marquées par une gravité sur la révolution. On est allé aussi eh bien, en Afrique, au Zimbabwe, et effectivement, on était là au milieu de ces militants politiques et puis des personnages assez dangereux quand même. Et effectivement, ce sont, on ne dirait pas que ce sont là des personnes dangereuses, mais quand même, en tant qu'enfant, eh bien, on perçoit cet angle aussi, hein, on le sent. Alors, beaucoup de moments chéris, mais beaucoup de football, beaucoup de sujet grave également.
Ça vous a marqué de quelle façon justement ces conversations dont vous parlez sur l'aspect plus engagé et plus politique finalement de Bob Marley?
Alors effectivement, toutes ces conversations portent aussi sur l'unification.
Six of Rasta.
Des différents eh bien, mouvements, et à travers le mouvement Rastafari, il y avait effectivement différents courants philosophiques, et là, on était dans l'unification. Il y a des périodes, des moments difficiles. On n'écoutait pas, je dirais, dans le détail, mais quand on était enfant, mais on pouvait comprendre le message d'ensemble à travers le ton, ce qui se passait. On arrivait à comprendre et ressentir les choses. Et puis, le continent africain jouait un rôle très important. Et pour comprendre eh bien, qui était mon père, on entendait parler des eh bien, combattants pour les libertés, de la révolution, de l'unification, l'Afrique, la paix. Mais si on doit se battre pour la liberté, eh bien, on devra se battre. Et donc, nous, on entendait tout cela, non pas spécifiquement hein, dans le menu détail, mais c'était beaucoup plus un environnement général, hein, yes. Si vous voulez. Yeah.
Quelle place la France et Paris avaient pour votre père, Bob Marley?
Alors, dans le film, il y a trois lieux de tournage. Hein. La Jamaïque, Londres et Paris. Hein. Voilà, trois lieux très importants dans le film.
We know that, you know, the connection with Bob and the French.
On sait que le lien entre Bob et les Français, à travers sa musique, était très fort. C'est une connexion, un lien très étroit. Et pendant sa période, pendant sa tournée européenne, eh bien, il y avait beaucoup de fans français de Bob. Et donc Paris est un lieu vraiment tout à fait spécial, tout à fait unique, comme Londres, comme la Jamaïque, il y a Paris, l'Italie, ces lieux, eh bien, ont un lien très très proche, vraiment.
Le film résonne beaucoup avec l'actualité. Est-ce que vous espérez que le message envoyé par le film fasse du bien aussi aux gens, particulièrement en ce moment?
Oui, alors effectivement, je pense que dans sa vie, Bob travaillait à l'unification des êtres humains. Et on a d'ailleurs essayé de l'assassiner pour ça. Et donc, il a dû prendre une décision pour de revenir, de retourner. Je dirais qu'après son retour, c'était, il y a une plus grande... Il était entendu, il y avait, je dirais, une plus grande paix au sein de la communauté. Les influences politiques et au sein de la communauté étaient beaucoup plus apaisées que par le passé. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un concert, et un concert non seulement pour la Jamaïque, mais pour l'Afrique et le monde.
On peut s'en servir encore aujourd'hui, alors. C'est ça qui est bien. Et ça servira probablement toujours. Je voudrais vous entendre sur Rita. Rita est incroyablement bien jouée par Lashana. Est-ce que vous pouvez me dire quel exemple Rita a été pour vous en tant qu'enfant, Ziggy?
Ma maman, alors...
Listen, she's a very strong woman.
Écoutez, c'est une femme très forte. Elle est engagée à la cause. Elle est engagée à l'amour qu'elle portait pour Bob et que Bob lui portait. Et donc, quand je pense à ma maman, eh bien, je pense eh bien, à la balle qu'elle a reçue dans la tête et qu'elle a continué à soutenir Bob à l'occasion du concert Once a Smile, donc Et je dirais que c'est... Sans elle, il n'y aurait pas eu de Bob Marley. Et ça, c'est impossible, tout simplement.
J'adore entendre ça.
It's true.
C'est vrai.
Comment vous définiriez justement cette relation aussi puissante entre Rita et Bob?
Well, I think in a relationship,
les relations comme celle-ci sont façonnées, forgées pendant les périodes difficiles.
Because they knew each other when they had nothing.
Parce qu'ils se sont connus alors qu'ils n'avaient rien. L'un et l'autre. Et le lien s'est construit là. Il y a un lien spirituel également entre ces deux êtres. Ils partageaient la même conscience, tous les deux. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas de différence. Leur conscience était unie, si vous voulez, dans le Rastafari, dans la dimension spirituelle. Et là, il y a vraiment un lien très, très fort à ce niveau-là entre ces deux êtres. Et vraiment, c'était un lien unique, multidimensionnel, de la politique, de la philosophie Rastafari, dans l'unité et de ce que ces deux êtres faisaient. C'est un lien qu'on ne peut rompre, jamais.
Votre père est parti si jeune, 36 ans. C'est mon âge aujourd'hui, donc je sais de quoi je parle. Vous avez un regret, Ziggy ? Par rapport à ça, est-ce qu'il est parti
Regrets.
Trop tôt?
Oh yeah, too early for me. Yeah, sure.
Bien sûr, trop tôt pour moi, absolument.
No doubt for us.
Il va sans dire, sans aucun doute. Il nous manque. Et puis, effectivement, au fur et à mesure qu'on grandit nous-mêmes et qu'on prend de l'âge, on réalise qu'il est mort très jeune. Mais on vit dans différents espaces. On vit dans le monde physique et on vit dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Et effectivement, c'est très dur dans ce monde physique, mais on est très lié au spirituel, à cette dimension. C'est très important. Et on sent que cette relation existe toujours et elle perdure dans cet espace spirituel, non pas dans l'espace physique, mais dans l'autre espace, l'espace spirituel. Et c'est un bon équilibre. Il faut vivre un petit peu dans ces deux dimensions.
Ma question est peut-être un peu trop personnelle et si vous ne voulez pas y répondre, il n'y a pas de souci. C'est peut-être un peu intime, mais dans ce monde spirituel, vous vous parlez tous les jours avec votre père ?
Not daily, but every now and again. Okay.
Pas au quotidien, mais de temps à autre, effectivement, oui.
Les chansons de Bob et son culte, on le voit avec ce film. De nombreuses phrases aussi de Bob. Juste deux exemples, la musique peut rendre les gens meilleurs. Il suffit de leur injecter constamment. Ou encore, quand on est frappé par la musique, ce qui est bien, c'est que ça fait pas mal. Est-ce qu'il y a une citation, une phrase de Bob que vous aimez particulièrement et qui vous accompagne?
Écoutez, je dirais que la dernière chose que mon père m'a dit était que, en montant, prends-moi en haut, sur ton chemin vers le bas, ne me laisse pas tomber. Et ça veut dire que moi, j'ai une chanson pour toi. Et cette chanson disait ces mots-là. En montant, prends-moi en haut, sur ton chemin vers le bas, ne me laisse pas tomber. Pour moi, ça résonne toujours, aujourd'hui. Et regardez, on est là aujourd'hui. Et on aide à porter son message, hein. Son message d'amour, de manière à ce que le monde puisse justement être exposé à ce message et le comprenne, le découvre en tant qu'être humain, en tant que personne, et non pas en tant qu'icône, mais vraiment en tant que personne, qu'en tant qu'être humain. Et c'est là où on peut être établir ce lien et ces mots résonnent vraiment avec moi.
Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous espérez pour ce film, vous, personnellement? Qu'est-ce que vous espérez le plus pour ce film, Ziggy?
Mon espoir est que le monde puisse s'unir, qu'on arrête d'être divisé dans le monde. Ce n'est pas nécessaire. Et on peut faire, les êtres humains peuvent faire bien mieux que ce qu'ils font en ce moment. Et j'espère que ce film sera une voix qui portera ce message. Il n'y a pas tant de films que ça. Et finalement, aucun film ne porte ce genre de philosophie, de ce message, cet esprit. Et parce que lorsque l'on voit, regardera One Love, eh bien, c'est un petit peu une stratégie pour insuffler une pensée dans les esprits de ceux qui regarderont ce film. Voilà, One Love.
Stratégie.
Eh bien, c'est une stratégie subliminale pour faire ancrer cette idée dans l'esprit des êtres humains. Parce qu'aucun leader ne parle de s'aimer les uns les autres. Aucune religion ne parle de s'aimer les uns les autres. Non. Et voilà, Bob, c'est le seul qui a justement porté ce message d'amour, qui a vraiment porté ce message. Et personne d'autre n'a porté ce message-là. Non. C'est pas quelque chose qu'on entend, c'est pas quelque chose que l'on voit. Et là, c'est le seul espoir que l'on a pour véritablement influencer l'humanité tout entière. Il faut porter ce message.
Thank you, Ziggy.
Yeah, man. Thank you.
Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Confidentiel Bob Marley, un épisode réalisé par Danny Matouk, écrit par Thomas Pierre et programmé et produit par Marie-Caroline Mandon. Vous le savez, si vous voulez écouter un épisode de Confidentiel, c'est très simple. Tout est disponible sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. N'hésitez pas.
RTL. Confidentiel. Ophélie Meunier.